Bah, il suffit de regarder la carte ou il suffisait d'écouter les prévisions Géraldine de Maurice ce matin sur RMC pour se rendre compte qu'on allait être cette semaine encore dans la droite ligne de ce qu'on a vécu ce week-end, des températures au-dessus des 30 degrés.
J'ai croisé Géraldine, elle me confirme effectivement que le pays est la proie d'un dôme de chaleur. L'air chaud nous vient du Maroc et la France va suffoquer encore toute la semaine et notamment Paris, sa région, l'ouest parisien, là où on a l'ouest même de la France et on a moins l'habitude de ces fortes chaleurs. C'est pas nouveau, à chaque fois on explique le dérèglement climatique avec des canicules plus précoces, des périodes pluvieuses plus longues, etc. Mais on a l'impression, alors à chaque fois on nous dit il va falloir s'adapter, mais en fait non. Parce que on change pas nos habitudes. Des courses pédestres, des semi-marathons ont été maintenus ce week-end, notamment à Paris. Il y avait la 11e édition de la course la Pyrénéenne autour de la mairie du 20e arrondissement parisien. Et un coureur de 53 ans a fait un malaise, il est mort. Alors pour l'instant, il n'y a pas le lien avéré entre son malaise et les fortes chaleurs. Mais on voit par exemple qu'à Maison-Alfort, non loin de là, en région parisienne, il y a eu 10 personnes en urgence absolue. À Menton, il y a eu une vague de malaise lors d'une course pédestre. 3 personnes hospitalisées. Certains n'étaient pas assez préparés, ont dit les organisateurs. La course a été annulée. Alors déjà, on pourrait se poser la question de la responsabilité de ceux qui maintiennent ces courses. Peut-être qu'il aurait fallu annuler par exemple la Pyrénéenne. Est-ce que c'était bien raisonnable de continuer à organiser ça? Et puis à chacun de nous, c'est la responsabilité individuelle. Il est temps peut-être de s'adapter.
Alors justement, venez en discuter avec nous au 32-16, qu'il aurait fallu annuler ces courses. Est-ce qu'on est incapable de s'adapter, Flora?
Il faut savoir que le coureur du 20e, son décès n'est pas, la causalité entre son décès et la chaleur n'est pas établie aujourd'hui. Donc on ne peut pas vraiment affirmer ça. Une fois qu'on a dit ça, vous avez remarqué qu'on a du mal à s'adapter à tout changement de situation. De toute façon, c'est général. Le réchauffement climatique, on alerte depuis 1972. C'est pas depuis hier. Donc, si on savait s'adapter, ça se saurait. Si on savait lutter contre le réchauffement climatique, ça se saurait aussi. Donc, de toute façon, dans les années à venir, c'est pas la dernière personne à mourir du changement climatique. Je vous le dis d'entrée de jeu. Et on parle souvent de l'Inde, du Bangladesh, mais ça va être aussi en France chez nous. Que ce soit avec la montée des eaux ou avec les fortes chaleurs. Il y a quelques années, il y a un rapport qui a été fait à Paris pour préparer la ville au pic de chaleur à 50 degrés. C'était pendant une canicule, il y a 72 degrés qui a été enregistré dans la cuisine d'un restaurant. 72 degrés, le restaurant il avait dû fermer puisque c'était ingérable de faire travailler des cuisiniers à 72 degrés, ils en seraient morts clairement, mais il va y avoir une grosse question sur le droit du travail, que ce soit les personnes dans les cuisines en sous-sol, que ce soit les ouvriers de chantier qui travaillent dehors, est-ce qu'on doit décaler leurs horaires? Dans le sud de l'Espagne, ils travaillent très tôt le matin et très tard le soir, mais ils travaillent pas en plein cagnard. Donc on va devoir changer les rythmes de travail, et moi ce qui me surprend, c'est quand le monde économique ne prend pas des décisions écologiques alors que c'est eux qui vont payer. Les entreprises du BTP, c'est un gros secteur d'activité en France qui embauche énormément. D'ailleurs, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans ce secteur. Ils ont intérêt à lutter contre le réchauffement climatique puisqu'ils ne vont plus pouvoir faire travailler leurs ouvriers.
Ils le font déjà. Les entreprises s'adaptent.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'elles ont arrêté le béton. C'est vrai qu'elles ont arrêté.
Dose quand même.
Non, mais sur les horaires, par exemple.
Dose. Oh oui, ça pas vraiment. Pas en France, pas vraiment, on n'est pas assez vite.
La problématique, c'est que veut dire s'adapter? Est-ce qu'on arrête de vivre quand il y a des épisodes de canicule ou est-ce qu'on anticipe avec de la prévention, avec, comment dire, des mesures?
Une course pédestre, pardon, est-ce que là, prenons un cas concret, là, avant de partir en généralité, il y avait une course pédestre organisée à Paris, dans le 20e. Est-ce qu'il fallait pas l'annuler tout simplement? Dire, tant pis, on se reverra là.
Donc, à chaque fois qu'il va faire au-dessus de 30 degrés, on va arrêter les courses, on va arrêter les matchs, on va s'arrêter de vivre.
Mais Olivier, toi qui prônes la liberté quasi absolue, c'est assez étonnant de te voir réclamer que la ville de Paris soit responsable pour les gens. Chaque personne est responsable de lui-même.
Il y a toujours une responsabilité de l'organisateur dans tout événement. Oui, mais quand tu organises une rêve partie qu'il y a des morts, je suis désolé, l'organisateur, il est responsable.
D'accord, mais on le sait que sous la chaleur, on est à risque. Tout le monde le sait.
Oui, bien sûr, il y a les deux. Il y a la responsabilité individuelle.
Les deux,
bien sûr.
Oui, mais c'est les deux, mais ça s'anticipe en amont. Tu as parlé de l'Espagne, en Afrique, ils font comment?
Ils n'organisent pas des semi-marathons.
Ils ne
s'arrêtent pas de vivre. Ils sont habitués, mais il faut peut-être qu'on soit. Il y a une meilleure prévention. Et la réalité, c'est que chaque année, on répète la même chose. Donc chaque année, on va dire,
Au mois de mai, c'est rare quand même que la
On est plus proche de l'été que de l'hiver, donc c'est des choses auxquelles il faut s'habituer. On sait que, par exemple, en plein mois d'août, on peut peut-être, vu le dérèglement climatique, connaître aussi des épisodes pluvieux qui n'avaient pas lieu d'être auparavant. Donc, il faut une meilleure prévention et une préparation des esprits en amont quand tout va bien, en réalité.
Jean-Loup, j'aimerais maintenant que le changement climatique soit considéré comme une évidence et que des gens, pourtant intelligents, cessent, par esprit de contradiction, d'être climato-sceptiques. Parce que moi, par exemple, à l'échelle de ma vie, voilà, j'ai 36 ans, je constate le réchauffement climatique. C'est-à-dire, je vois bien que l'hiver, la neige a quasiment disparu et qu'il neige beaucoup moins, presque plus en fait, beaucoup moins que quand j'étais enfant dans les années 90. Et quand j'étais enfant dans les années 90, où il neigeait nettement plus que maintenant, il neigeait déjà beaucoup moins, me disait-on, que dans les années 60 ou 70. Je vois quand on parle de la guerre en Ukraine, on nous dit que la Russie est devenue le premier producteur mondial de blé. Mais en fait, c'est aussi en partie grâce au réchauffement climatique, parce que il y a des terres où avant le blé ne poussait pas et où maintenant il pousse. On voit également
que personne aujourd'hui remet en cause. Ouais. On voit, c'est sur les causes où il y a un débat.
Je veux dire, c'est un cours de physique de base, cours de physique de cinquième. Quand tu émets du CO2, ça fait monter la température. Je veux dire, c'est une loi physique assez basique quand même. Mais par contre, en effet, ce qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, donc d'une part, en effet, s'adapter nos infrastructures. Tu vois, par exemple, en Californie, ils peignent énormément de choses en blanc parce que c'est une couleur qui aide justement pour la régulation thermique en cas de chaleur. Et d'autre part, moi, je pense que même quelqu'un, tu vois, si tu veux aussi des noms de gens qui ont une part de responsabilité, alors une petite part, mais je peux te citer Angela Merkel, arrêt du nucléaire en Allemagne. Je peux te citer Emmanuel Macron, fermeture de Fessenheim. Et on peut mesurer combien de CO2 ça a émis en plus en Europe.
Sous la pression des écologistes.
Sous la pression des écologistes. Dans les deux cas, d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, la lutte contre le réchauffement climatique, elle passe en grande partie par le nucléaire, qui est une énergie propre et qui n'émet même pas de CO2. Donc être contre... D'ailleurs, Greta Thunberg, elle est pour le nucléaire, je tiens à le rappeler. Et donc être sincèrement et intelligemment contre le réchauffement climatique, c'est aussi... Pas seulement, mais là, aussi sur l'adaptation.
Attends, Olivier, tu dis, il n'y a plus personne qui est climato-sceptique aujourd'hui. Plus personne, sauf le président des États-Unis, Donald Trump, la première puissance mondiale, de laquelle l'Europe dépend dès qu'elle veut lever le petit doigt pour faire quelque chose. Oui, mais bon, c'est facile de dire ça. Et puis, par ailleurs, il y a les méthodes. Par exemple, au Rassemblement national, ils se disent sensibles. Jordan Bardella, sur ce même plateau, m'a expliqué qu'il était sensible aux enjeux climatiques. Quand tu regardes ou leur programme ou leurs actions, ils votent systématiquement contre toute mesure qui a pour but de limiter le réchauffement climatique.
Donc
en fait, c'est trop facile de dire.
Les écologistes ont prôné la sortie du nucléaire, qui était une erreur historique.
C'est comme le loup qui dit aux brebis, si élisez-moi et je deviendrai végétarien. Le Rassemblement National, ils font que du climato-scepticisme, que ce soit dans leur vote ou dans leur programme. Et chaque citoyen peut aller vérifier. Donc dire, il n'y a plus personne qui est climato-sceptique, ce problème-là, il est réglé, c'est factuellement faux. Et il faut juste être un peu clair là-dessus.
Sauf qu'on voit bien que les débats... Tout le monde s'est trompé, en fait.
On a Marco
dans
qui veut
les
réagir
sur ce sujet-là.
Qui est du côté de Royan. Et il a participé justement à la course ce week-end à Royan. Bonjour Marco.
Salut les GG.
Vous avez fait un malaise ou vous en êtes bien sorti, dites-moi.
Alors moi, j'ai fait un gros malaise. En fait, j'ai fait mon semi-marathon avec deux de mes filles. Et je l'ai fait, bon, ce qui n'est pas trop mal, je l'ai fait en 2h03. Et mes filles sont arrivées 35 minutes après nous. Après moi, pardon. Et donc, nous, on attendait, en fait, l'arrivée est magnifique. Hein. Le semi et le marathon sont réputés assez difficiles parce qu'il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de choses comme ça. Et l'arrivée est sur la plage, et les 200 derniers mètres. J'ai attendu avec ma femme et deux de mes autres filles, j'ai quatre gosses. On a attendu pendant une demi-heure en plein cagnard. Et puis, au bout d'un quart d'heure après l'arrivée de mes filles, en fait, je me souviens plus de rien. Je me suis réveillé au PMA, j'étais perfusé avec mes collègues.
Vous avez fait quoi, un coup de chaud, une déshydratation, une insolation?
Les deux. Coup de chaud avec grosse déshydratation. Et pourtant, j'avais bu pas mal. Mais la problématique, moi, je pense, enfin, beaucoup de marathons débutent à 6h45 ou 7h, et les semis suivent derrière. Et là, le marathon a commencé à 7h30. Nous, on est parti au semi à 9h30. Je pense qu'il eût été plus raisonnable de l'avancer si on avait avancé d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça aurait changé beaucoup de choses. On est parti à 26 degrés.
C'est pas l'adaptation.
Voilà, et on est arrivé à 34 degrés à l'ombre. D'accord. Les deux derniers kilomètres, je l'ai fait, il y avait un panneau.
Et vous-même, vous avez hésité à prendre la course?
Je suis un peu tête brûlée.
Et vous entraînez régulièrement?
Ah oui.
Ça n'a pas empêché le malaise.
Je fais beaucoup de courses et je m'entraîne régulièrement et je vais pas un semi, ça se fait pas.
Marco, heureusement ça s'est bien terminé, mais il y a un côté un peu irresponsable de faire du sport.
Et Marco, à l'hôpital, les médecins,
chaud,
oui, mais les médecins, ils vous ont dit quoi, que c'était, que vous étiez vraiment, c'était dangereux si vous y arrivez ou ça va?
Oui, non, ça va. C'est j'ai pris, on m'a donné deux sommités de sucré et de salé. Au poste médical avancé, je suis pas allé à l'hôpital moi. Mais c'est vrai que vous voyez, les premiers ravitaillements étaient à 5 km, qui est complètement énorme quand il y a une canicule comme ça, on peut le dire. Bien sûr. C'est dingue. Il y avait déjà plein de malaises.
Donc ça vient confirmer qu'en fait, aussi bien collectivement qu'individuellement, on prend pas la mesure des choses. Pardon, mais moi j'ai vu dimanche des gens faire du vélo alors qu'il était 11h, les gens suaient, etc. Des personnes parfois âgées. C'est irresponsable. Alors après, comme on a un service de santé, derrière on est pris en charge. Mais enfin bon, après faut pas s'étonner que les urgences soient remplies. Enfin, à un moment donné, il faut aussi quand même se prendre en main. Et qu'on soit capable de dire, ce jour-là, je fais pas de vélo, tant pis, j'avais prévu ma sortie de vélo.
Je referai pas sous ces conditions-là, c'est terminé. Bah ouais. J'en ferai d'autres, évidemment, mais pas.
Mais sur place, les organisateurs, quand même, essayer de prévenir, d'alarmer, de dire attention, est-ce que vous êtes sûr d'être en bonne condition physique?
Prévenu, n'allez pas au-delà de vos limites, des choses comme ça, quoi. Il y avait quelques brumisateurs un petit peu sur le parcours, et heureusement, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait des gens avec des jets d'eau et tout ça qui nous arrosaient en plus, quoi. Et heureusement, les gens, c'était sympa, quoi.
C'est d'être resté debout ensuite à la chaleur, quoi. C'est là où ça a cogné.
Moi,
ce
qui m'a flingué, c'est la suite. Pourtant, je me suis hydraté. J'ai bu 2x500 avec un soluté d'iso pour réhydrater après la course. Mais dans le sable, je pense que c'est ce qui m'a fini. Après, quand on est reparti gentiment pour aller sur le front de mer et remonter par les arcades, à l'ombre, là, boum, c'est
bien sûr. Donc appel à la prudence, Marco. Merci d'avoir témoigné avec les GG, avec les grandioles. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si effectivement les températures se décalent. Par exemple, des épreuves importantes comme le Tour de France. Tu vois, est-ce qu'à un moment, les organisateurs vont se dire, même si le Tour de France, par excellence, si tu sais, a toujours été au mois de juillet, il y a eu des gros coups de cagnard sur le Tour de France, avec des coureurs qui ont eu des fringales. Est-ce que ce sera raisonnable à un moment de maintenir le Tour de France, ou est-ce qu'il faudra l'avancer, par exemple?
Coluche, tu sais, il l'avait envisagé. Si on supprime le dopage, on pourra partir au mois de décembre pour arriver le 14 juillet.
Voilà. Parce que là, avec le réchauffement climatique, il va falloir doper un peu le pot belge pour monter encore les perfs.
Non, mais tu regardes d'ailleurs pour les matchs qui vont avoir lieu au Mexique là cet été pour la Coupe du Monde. Ouais. Ils ont prévu bon nombre de pauses fraîcheurs pour les joueurs.
Oui, mais tu sais pourquoi? Parce qu'on fait aussi jouer les joueurs trop tôt pour être sur le fuseau horaire européen.
Bien sûr.
Donc ils vont faire des matchs à midi, à 15h, ce qui est effectivement pas raisonnable en fait.
Mais si les températures montent, ou alors on dira il faut construire des stades indoor avec
climatisés comme au Qatar.
Mais ce qui contribue encore au réchauffement climatique, parce que la climatisation, elle résout très temporairement le problème à l'échelle individuelle, mais elle l'aggrave.
Alors, cette semaine, il y a Roland Garros qui a démarré. Ouais. Toute la semaine, il y a fait très chaud à Paris.
Et ça jouait en plein après-midi. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un réchauffement climatique, mais les institutions continuent de fonctionner comme les climato-sceptiques, en fait. Donc, il y a cette dichotomie qui fait que nous, au milieu, on se retrouve en danger.
Oui, parce qu'il y a les mêmes qui sont là à faire des grandes leçons, à dire oui,
ils ne veulent pas changer leur manière.
Ils ne changent pas la règle.
Voilà ce qu'on pouvait dire.
D'ailleurs, ça fausse quand même, la compétition, parce que entre ceux qui vont jouer le soir, grâce au tirage au sort, ils vont jouer en nocturne. Parce qu'à Roland-Garros, on peut jouer le soir. C'est sûr que ça a des avantages.
Et un autre point, c'est que ça favorise la remontée des espèces invasives, végétales et animales. Tu vois déjà, la carte des espèces change en France. Des espèces qui étaient au sud remontent vers le nord.
J'ai vu une girafe dans Paris.
Et t'as des espèces invasives qui vont proliférer. Ça va poser de vrais problèmes de santé publique et d'écologie.
Surtout en plus avec la Méditerranée qui ne cesse de se réchauffer. Mm-hmm. Tu as des espèces qui vont disparaître. Et ça va être un vrai problème. Est-ce qu'on est incapable de s'adapter, c'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Incapable de s'adapter, vous dites oui, malheureusement oui, à plus de 63%.